On va passer la main donc à Fabien Armenier qui est à Nice.
Alors, moi j'ai des slides, mais elles sont pas nécessaires. Par contre, elles sont en ligne sur le site de la CIF. Parce que ça fait des informations peut-être pour apprendre après qui peuvent être utiles. Et donc, 15 minutes, on va approcher. Alors, j'ai perdu mes slides en tout cas, c'est bon. Okay, donc, je m'appelle Fabien Armenier, j'étais maître de conférence à l'université Nice sur Antipolis, et depuis quasiment 2 ans, j'ai migré, et maintenant je travaille pour une entreprise qui s'appelle Nutanix, une entreprise qui est basée sur la Silicon Valley. Et je vais vous parler un peu de mon parcours, comment je fais ça, et en plus c'est cool, en plus des fois c'est différent, et puis voilà. En termes de pédigré, j'ai passé ma thèse à l'université de Nantes sur l'intérêt de la migration à chaud de machines virtuelles pour développer des ordinateurs dynamiques, en gros ce qui sert à passer des machines virtuelles dans des clouds quand ça a été discuté auparavant. Et c'était un sujet cool. Alors ensuite, je suis passé à l'université de Tata pour faire un postdoc. Là, j'ai posé sur le problème inverse. Comment dimensionner des graphes expérimentales pour exécuter des jobs. Cette fois, on va adapter l'infrastructure à leur code de faire l'inverse. Puis, comme finalement, je continuais toujours à aller placer des machines virtuelles, j'ai pris un poste de maître de conférence à Nice, où j'ai travaillé sur le placement de machines virtuelles. Et j'ai été contacté par Nice en 2017 pour bosser chez eux sur des programmes de placement de machines virtuelles. Donc globalement, depuis 10 ans, je suis assez focus. J'aime bien ce sujet-là, donc moi je continue à bosser dans ce sujet-là. Donc, un petit teasing, Nutanix, qu'est-ce que c'est une compagnie qui a été fondée en 2009 dans la Silicon Valley. Elle a eu droit au label de Tech Unicorn en 2013. Tech Unicorn, ça veut dire une entreprise qui est évaluée à plus d'un milliard de dollars. On est à peu près à décacorn maintenant, un milliard, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est 4400 à bosser là-bas. On a à peu près 11 000 clients qui sont répartis partout dans le monde. Donc ça fait que le code que j'avais commencé en paix, ce que j'ai fait après en tant que maître de conférence, il tourne dans des hôpitaux, dans des clients rigolants comme la Société Générale en France, dans des clients très rigolos comme le FBI ou la NASA. Et donc il y a du code de Tésard qui tourne dans du FBI et la NASA, donc on considère que la qualité finalement n'est peut-être pas si mal, pour répondre à la question qui avait été posée avant. Qu'est-ce que fait Nutanix? C'est initialement, ils ont pris un des principes des infrastructures de chez Google pour le cloud public de Google qui était l'hyper-convergence. C'est-à-dire que sur un nœud, on fait tourner des machines virtuelles et on va utiliser l'espace de stockage directement sur ce nœud au lieu d'utiliser de l'espace de stockage qui était sur des SAN, des espaces de stockage distants, très coûteux à maintenir avec des problèmes de performance, des problèmes de localité de données. Donc tout ça vraiment sur un même nœud. Et comme ça, on a une meilleure performance et on peut plus facilement augmenter la taille du code en ajoutant des nœuds. Et voilà. Et puis récemment, l'entreprise est dirigée maintenant vers des architectures plus hybrides avec le multi-cloud. Dans ce cas-là, on va avoir des clouds privés, des clouds publics, des clouds privés à distance. Dans ce cas-là, il importe de placer les machines virtuelles au bon endroit en fonction des besoins, en fonction des risques, en fonction du prix, en fonction des critères de performance. Donc derrière tout ça, on a toujours besoin de ces algorithmes de placement de machines virtuelles. Et donc, j'ai fait donner une définition extrêmement précise de ce que c'est que le placement de machines virtuelles. Globalement, il faut trouver un serveur pour chaque VM. Après, il y a des contraparties. Il faut du matos compatible, du CPU, de la RAM, suffisamment de stockage. Bon, des fois, il faut suffisamment de réseau, mais pas forcément. Des fois, il faut suffisamment de GPU, la bonne configuration de GPU, mais bon, pas forcément. Des fois, il faut qu'elle soit à côté d'autres VM, mais des fois, non. Pas forcément. Donc en fait, il n'y a pas de définition propre. La définition est en fonction des contextes, et donc on s'adapte. Et après, quand on dispose d'une infrastructure, on va essayer de maximiser ou minimiser les métriques. La plupart du temps, on va essayer d'améliorer l'équilibrage de charge. La plupart du temps, sinon, on va essayer de minimiser la consommation énergétique, minimiser l'acquisition d'eau. Donc, on minimise, on maximise selon quelque chose, et en fonction des contextes, on s'adapte. Donc pourquoi ces algorithmes sont intéressants? Qu'est-ce qu'un bon ordonnanceur, un bon algorithme de placement de VM? Eh bien c'est simple, c'est s'il est bon, il va être capable de passer plus de VM, plus de valeur monétaire sur une même infrastructure. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir faire tourner plus de VM, on va avoir un coût par VM qui est plus faible. Il faut savoir qu'un nœud d'un cloud, ça coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc dans ce cas-là, si on peut économiser le nombre de nœuds achetés, on est forcément content. L'inverse est vrai, un bon ordonnanceur aussi, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire tourner la même charge de travail sur un nombre de nœuds plus petit. Et ça, c'est important quand vous achetez ou quand vous investissez dans une infrastructure parce que par rapport à un concurrent, vous allez devoir dire, grâce à nous, vous allez devoir acheter moins de nœuds. Dans ce cas-là, ça va coûter moins cher. Et donc forcément, il y a un critère économique derrière, plus on en sert les noms, moins l'hébergement plus cher. Et donc pour faire ça, ce que Nutanix utilise maintenant, c'est ce que j'avais développé durant ma thèse, durant mon postdoc, puis après durant mon postdoc, c'est un truc qui s'appelle BetterPlace, qui a été fait notamment à l'Université de Nice au Scientifique, dans le laboratoire de prothèse. Et donc c'est un algorithme pour calculer le placement et l'ordonnancement d'action de manipulation de machine virtuelle. Typiquement, ça observe l'état d'un cloud, on a des nœuds, si on a des VM qui tournent, on sort du CPU, de la mémoire, tout ce que vous voulez. Et puis on a des contraintes qu'on souhaiterait satisfaire pour que le cluster tourne mieux. Donc, tel VM, VM2 et VM3 devraient être sur des nœuds différents pour la tolérance au panne. VM1, il faut plus de CPU, VM2 4 pour les dames, pour une question de maintenance. On n'a pas tout ça. Le système analyse si les contraintes sont satisfaites, si elles ne le sont pas, et puis il y a un plan de reconfiguration. Comment transformer l'agencement des verres en un agencement qui est viable vis-à-vis de vous. Donc il va gérer la dépendance des actions, les problèmes de cycle, les problèmes de parallélisme, ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans ce système-là, de mon point de vue dans TESA, c'est que ça fait le placement et l'ordonnancement, aussi qu'on a une résolution exacte, notamment grâce à la programmation par contrainte et un solver qui est développé par l'IMT Nantes-Atlantique et qui s'appelle Shogo. Et c'est aussi quelque chose qui est extensible par nature, et ça c'est intéressant. Dans le cas de Nutanix, par exemple, parce qu'en fonction des cas d'utilisation, on ne va pas redévelopper des algorithmes from scratch, on va rajouter des tuiles, et on va s'adapter. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais globalement depuis que je bosse pour Nutanix? Donc, avant, quand je faisais de compte, j'avais essentiellement 180 heures de L1 à L2, donc ça allait de pense bien à mettre ton point virgule à la fin des lignes, t'es sûr que ta tabulation est correcte. Vérifie cette fois, s'il te plaît. Ah, des cours sur leur lancement, donc ça c'est super cool aussi. Maintenant, je fais qu'une évaluation pour le fun. Des cours en M2, quand on en vit, et ça j'adore, des trucs pour les écoles doctorales, la CIF, et franchement c'est très intéressant. Avant, j'étais enseignant-chercheur, il y a des points sympas qui sont ça. Ça veut dire rechercher des moyens. On va chercher des moyens, c'est répondre à des appels de projet pour que l'appel y passe, pour que j'ai de l'argent, pour que l'argent me serve à embaucher quelqu'un qui bossera sur le sujet que je voulais faire initialement, mais que je ne peux pas faire parce que je dois commencer à répondre à des nouveaux appels à projet pour récupérer de l'argent. Les gens sont sarcastiques. Maintenant, j'ai les moyens pour travailler, parce que c'est une entreprise, donc beaucoup, ils font attention à ça. Avant, je travaillais sur des problématiques liées à ma vision. Donc ça, c'est peut-être spécifique à mon domaine. Les clouds, c'est quelque chose qu'on voit bien une fois qu'on est dedans, qu'on les a, qu'on peut les faire tourner, qu'on a accès aux données. Forcément, quand on est académique, si on n'a pas de partenariat avec une entreprise, c'est dur à avoir et donc on ne sait pas réellement les problèmes qu'il y a et on ne peut pas réellement les valider parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ben là, maintenant, j'ai des clouds avec moi et puis je joue avec. Et effectivement, je vois si ça marche bien chez des milliers de personnes. Avant, je faisais de la recherche scientifique, appliquée, certes, mais scientifique quand même, et le Graal, c'est l'application. Maintenant, je fais de la recherche et du développement, et le Graal, c'est l'applicabilité. Mon code, les fonctionnalités doivent tourner chez les gens. Avant, également, je faisais de la recherche et de la reconnaissance. On est sur un modèle qui favorise l'excellence, avec la définition rigolote de l'excellence. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des super publications, il faut que je m'appelle EDR, il faut que je fasse plein de choses pour progresser en carrière, devenir prof, ainsi de suite. Puis aussi pour avoir plus de moyens de travailler correctement. Maintenant, ça, je n'ai pas besoin, je suis un employé, je fais mon taf. Et forcément, comme je suis là, ben, ils ont besoin de moi. Et avant, je faisais l'administratif, et maintenant, j'en fais plus parce que j'ai du support qui est là pour m'aider à ça. Donc, ça, c'est ça. Ok. Le seul problème que je faisais pas avant, en tant que compte, c'était la partie politique et gestion globale, parce que c'est mon truc. Et bah, pareil, je ne vais pas en faire, évidemment, en entreprise. Les questions ultimes que je me posais avant et que je me pose maintenant, est-ce que ce que je fais est correct? En tant qu'académique, en tant qu'industriel, finalement, il y a des liens. En tant qu'académique, c'est est-ce que la solution que je suis en train de coder, est-ce que la solution sur laquelle je me compare, la fameuse baseline, est-ce qu'elle est réellement représentative? Est-ce que j'en ai pas pris une qui m'arrange par rapport à mes résultats? En tri, il y a plus ou moins la bonne question, plus ou moins la question, je suis bon en théorie, on a goût, mais est-ce qu'il va réellement résoudre un problème? Est-ce que j'ai bien capturé le problème de la problématique? Quand je fais une évaluation en tant qu'académique, qu'est-ce que j'évalue bien? L'abstraction de mon problème, une version simplifiée, peut-être même un peu biaisée de mon problème. Maintenant, la question c'est est-ce que je sous-estime ou est-ce que je surestime ma solution? problème. Est-ce que j'utilise un base de table pour mouche ou est-ce que je vois mal la complexité du problème? On a les mêmes problématiques, avec des points de vue un peu différents. Et les questions que je rigolote aussi, et celle-là, c'est des questions que j'ai vraiment plus de mal à cerner en tant qu'académique. Quand est-ce que ma solution doit marcher? Quand est-ce que ma solution peut ne pas marcher? Savoir répondre à ces questions-là, c'est très utile. Je me suis fait avoir sur un tour européen, où j'ai mis 2 ans à peu près, à voir que par design, ce qu'on faisait, ça allait ne pas marcher. Parce que je n'ai pas mis assez de temps pour prendre un peu de recul sur ça. Et bien, on se pose la même question, je me pose vraiment beaucoup cette question en ce moment, quand je travaille, parce que mon truc il tourne chez une dizaine de milliers ou une vingtaine de milliers de clusters. Et donc, quand j'ai une nouvelle fonctionnalité qui marche super bien pour le client à Toto, il faut que je m'assure qu'il marche bien aussi pour tous les autres clients, ou s'il y a des régressions, que la régression soit acceptable. Et donc, il faut énormément bosser sur l'aspect satisfaire tout le monde plutôt que être hyper satisfaisant pour une ou deux personnes. Sur la partie compte de fait, un peu pourquoi j'ai été recruté. En fait, bon ça, en fait, j'ai eu ces versions-là parce qu'à Nice, il y avait la grande messe de Nice l'année dernière, et donc la personne qui m'avait embauché, on a passé un bon repas au restaurant. Là, j'ai eu la chance. Donc en fait, globalement, le milieu des algorithmes de placement de l'EL, c'est un des milieux majeurs dans la recherche en computing, gestion des ressources en général. En fait. Je pèse rien en fait. J'ai 3 à 4 papiers, il y a peut-être un ou deux qui sont représentatifs, mais je fais rien, je viens pas d'une université super classée au classement de Shanghai, si vous considérez ça. Mais par contre, d'abord j'ai une page perso qui est accessible et qui est à peu près à jour. C'est caricatural, mais c'est pas forcément inutile. En plus, maintenant, la mode est au minimalisme. Donc forcément, prenez une pause déjeuner, faites une belle page web qui décrit ce que vous faites, et ça développe l'esprit de synthèse, c'est pas mal. Letterpage, c'est le prototype que j'ai fait, les open source par design. Alors là, maintenant, c'est la base quand on fait de la recherche, parce que c'est prendre de diffusion, c'est prendre de la productivité, et forcément, à partir de ça, les gens peuvent venir regarder ce qu'il y a. Mon code est documenté, il est testé. Normalement, c'est la base en ingénierie logicielle, et non, ça prend du temps quand même, il faut être honnête. Mais on considère que c'est du temps qui est rattrapé au fur et à mesure, parce qu'on commence à être de plus en plus sûr des résultats. Moi, ma hantise, c'était, et c'est toujours, c'était publier un papier dans lequel l'expérimentation est fausse, parce que j'ai un peu. Là où j'ai fait des choses un peu plus fun, c'est que j'ai fait un beau site web pour Letterpage, pareil, très accessible, très minimaliste, mais qui explique bien qu'est-ce que ça fait, en quoi ça peut être utile. Il y a même des tutoriels, les fameux Getting Started, en 5 minutes, comment on utilise le placement et tout, et une démo en ligne avec des rectangles qui bougent, c'est très rigolo. Ça, j'ai fait durant des réunions de projet européen parce que c'est un lieu. Mais en fait, c'est un bon moyen d'utiliser son temps, et finalement, on s'y prend, c'est de faire des trucs de plus en plus beaux, de plus en plus synthétiques et de plus en plus attractifs. Et moi, en tant que chercheur, finalement, je fais ça vite parce que ça doit commencer à synthétiser. Et c'est capable de répondre à une personne, comme lui, sur quoi je travaille. Je suis capable de répondre en 2 minutes, en 1 minute, sur quoi je travaille. Un truc encore un peu plus rare, c'est que je pensais à réviser mon code, à faire des livraisons. Ça, c'est des choses qu'on hésite à faire, mais en fait, il faut penser à le faire. Il faut dédramatiser. Je dis, c'est bon, mon code, il est suffisamment correct. Je livre bien packagé, les gens pourront l'utiliser. Il ne faut pas chercher à avoir du code parfait. La perfection, ça existe. Donc, finalement, j'ai un peu parlé aussi 8 ans sur Letterpage, sur le train de recherche et développement, avec les 2 temps. Et la partie visibilité, grosso modo, c'est 1 mois en cumulé, peut-être 2 mois sur le promotionnel, quoi. 2 mois, c'est rien sur 8 ans, mais finalement, 2 mois, ça pèse pas mal sur la balance, parce que ça fait une vitrine correcte qui permet de représenter aux gens ce qu'on a fait. Et donc, ça fait depuis 2007, j'ai eu des boîtes qui m'avaient contacté pour des informations, une boîte en France, de Grenoble, on dit c'est l'air intéressant ton truc, au final on n'a rien fait ensemble, de toute façon ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et puis par contre ce qu'il m'avait dit c'était qu'il y avait plein de trucs qui existaient sur Grenoble, sur Web, et finalement ils n'arrivaient pas à voir si ces solutions-là elles marchaient, si elles existaient vraiment, parce que pas de site web quand même. Onyx, une startup qui m'avait contacté en novembre, elle m'avait dit on a besoin d'un algo de placement pour une solution de calcul distribué. Donc je lui ai dit regardez RTFM, regardez les tutoriels. Et je suis très sociable. Et après, 2 mois plus tard, ils sont venus, ils m'ont dit bah écoute, super, c'est bon, ça marche, on l'a utilisé, c'est mieux qu'avant, notre truc n'était plus bon, maintenant c'est mieux. C'est livré, il y a une centaine de personnes qui l'utilisent. Moi, ça m'a pris 4 lignes sur un chat et 2 heures pour développer une petite fonctionnalité. Et franchement, c'est super agréable. Et finalement, Nutanix, ils m'ont contacté parce qu'ils faisaient un hackathon. Un hackathon, c'est 1 semaine pour faire la fiche de ce que vous voulez. Et donc, il fallait faire un algo de placement dynamique, ils ont utilisé Letterpage, au début, c'était pas confiant. Comme il y avait des tutos tout seul, ils sont débrouillés tout seuls super bien. Avant même que je sois embauché, ils ont réussi à le mettre en production. Moi, j'ai juste un peu de support, donc sur les 2-3 mois, il a fallu pour qu'eux fassent la production, la vérification des commandes. En gros, ça a pris une semaine de mon temps. C'est pas énorme, c'est très enrichissant, j'ai trouvé des bugs et des trucs sympas. On a voulu faire un partenariat parce que je voulais pas changer de boulot, mais un partenariat c'était trop compliqué. Même de mon point de vue, enfin, c'est pas que eux en fait. Là, ce qu'il fallait que je voie la salle, ce qu'il fallait que je voie l'université, il fallait que je trouve une personne qui soit, comprenne, qui soit disponible, qui soit pas surchargée de travail, qui comprenne ce que c'est que l'informatique et le logiciel, qui comprenne ce que c'est que les licences open source, qui parle anglais aussi. Et finalement, bah, c'était trop long, et à la fin, ils m'ont envoyé une première. Quand j'avais discuté avec eux, on dit « Est-ce que tu veux bosser pour moi ?» Ben, je dis « Bah non, c'est un boulot. » Après, ils m'ont dit « Non, est-ce que tu veux bosser pour nous ?» Mais tu restes chez toi, c'est cool. Là, je dis « Ouais, pourquoi pas ?» En fait, comme j'étais nominal de conf, j'ai pris une disposition. Donc, c'est pas risqué, comme transition. Et je teste. Effectivement, j'aime bien ce que je fais. Si dans 5 ans, 10 ans, je trouve ça embêtant, ou si même plus, bah, je reviendrai là, ou je ferai quelque chose d'autre, je sais pas. Avant de dernière slide, désolé pour les minutes 30 que je m'utilise en rap. L'instant pouce bleu, abonne-toi et ainsi de suite. Donc, là, on a complètement tout avec quoi ? On peut faire 5% par an. Donc, il faut qu'on embauche. Donc voilà, vous avez un premier lien pour dire où on embauche. Le deuxième lien, Glassdoor, c'est un site qui recense des avis sur les entreprises. C'est quelqu'un qui avait posé la question. C'est très intéressant quand vous allez en boîte parce que dessus, les gens marquent leur salaire. Vraiment, on marque le lien. Les gens marquent également les questions qu'on leur a posées pour les entretiens, ainsi de suite. Le problème, moi, je n'ai pas cherché à négocier mon contrat parce que je ne connais pas ma valeur. Pour me donner confiance, des fonctionnaires. Un fonctionnaire, ça a un coût, ce n'est pas une valeur. C'est la seule phrase politique que j'ai dit. Et donc finalement, j'ai laissé faire, puis j'ai demandé à quelqu'un qui bossait avec lui, non, c'est tout ça. Et mon salaire est bien sûr bien plus aidé qu'un salaire ingénieur. Mais d'autres circonstances, parce que comme mon logiciel est open source, ils m'ont acheté parce qu'ils ont d'aide technique, parce qu'ils utilisent mon logiciel aussi. Dernier point, donc il y a quelques centaines d'offres d'emploi qui sont disponibles à l'heure actuelle, et notamment des stages aussi pour la partie ceux qui sont en cours de doctorat, ils peuvent faire 3 mois, 4 mois. Le doctorat, là, ça compte pour 9 offres sur 26. Précise spécifiquement à San José que le doctorat est souhaité ou requis. Et ça compte pour eux dans le sens où, qu'au moins ils me présentent, ils me disent c'est Fabien Meunier, machin, il vient de l'université. Il était prof avant. Premièrement, ils disent tu n'étais pas prof, tu étais de conférence, mais les affiliations, c'est un bizarre. Mais pour eux, ça compte, en fait. Et même moi, en fait, quand je me présente aujourd'hui, je dis toujours à des gens bah avant, j'étais pas de conf, et maintenant, je fais des RD dans le privé. C'est important pour moi de dire qu'avant j'étais maître de groupe. Parce que je considère que c'est quelque chose qui est significatif. C'est un statut qui a de la valeur dans la tête des gens, et à défaut d'autres choses, bah, on s'approche pour ce qu'on a. Donc, je ne dis pas que je fais uniquement les RD dans le télé, parce que c'est un peu dégradant, pas du tout. Mais j'ai besoin encore de dire avant j'étais maître de groupe. Et voilà pour le compliment.